bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Bonjour, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Inter avec Léa Cadeau.
Bonjour à tous.
Avec Marina Rollman. Avec Albert Algou.
Bonjour.
Daniel Morin, c'est toi Albert.
Bonjour Marina.
Tanguy Passion sera là tout à l'heure et nos invités Nils Tavernier et Jacques Gamblin. Pour un très 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 bon film du grand cinéma comme on l'aime, ça s'appelle L'incroyable histoire du facteur cheval, qui sortira en salle de cinéma la semaine prochaine. C'est ça?
Le 16 janvier.
Oui, c'est ça.
C'est ça, le 16, oui.
Mercredi
prochain. Proche. Avec vous, Jacques Gamblin, avec Bernard Lecoq aussi, qui est... qui est formidable. Tout le monde est impressionnant. Florence Thomassin, bouleversante. Laetitia Casta, Natacha Lindinger, Aurélien Vic également. Je salue au passage. T'as un copain, voilà. Autant faire la bise.
Bah, super.
L'incroyable histoire du facteur cheval. Histoire vraie. Je ne sais plus d'ailleurs, Nils Tavernier, si en ouvrant le film, vous l'écrivez que c'est une histoire vraie. Ou est-ce que tout le monde doit savoir qu'il a vraiment existé, le facteur cheval?
Ben moi, je savais pas qu'il existait, en tout cas. Je le connaissais pas. C'est un film qu'on m'a proposé.
C'est vrai?
Je connaissais pas du tout. Je suis assez inculte. J'ai pas été beaucoup à l'école.
Non.
Mais j'allais me sentir à l'aise ici, alors.
Ah, merci. Super. Tant mieux.
Vous connaissiez le palais idéal?
Le palais se visite, oui.
Le palais,
moi, je le connaissais pas.
Ah oui, c'est vrai.
D'accord.
J'arrive pas à estimer le nombre de gens en France qui le connaissent et qui le connaissent pas.
Il y a quand même 170 000 visiteurs par an.
Par an, ouais. Ouais. Il s'est classé monument historique. Ça, vous l'écrivez à la fin du film.
Et son tombeau aussi, ça tombe.
C'est une histoire vraie. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, voyons à quel point vous connaissez, vous avez travaillé, évidemment, la vie de nos invités. En commençant par Jacques Gamblin, quel sport a-t-il pratiqué à haut niveau?
Karaté.
Athlétisme?
Oui. Voilà, c'est direct, il n'y a pas de débat.
Un peu de détails quand même, un peu de précision.
110 mètres haies.
Bah Jacques.
110 mètres haies.
Entre autres, oui.
Ah, 400 mètres
haies. 400.
Oui.
Et le 110 aussi.
Aussi.
Aussi le 110.
Vous n'avez pas un peu de fond aussi?
Si, au départ, oui.
Dans toute l'athlétisme,
beaucoup de
quoi.
Je continue de fond.
Donc vous voyez bien qu'on peut pas préciser tellement c'est...
Non, mais il n'y a pas de lancer.
Non, mais j'ai pas fait le saut à la paire, j'ai pas fait le... Non, non.
Vous auriez dû.
Le poids.
Vous êtes frustré.
Le marteau, encore moins.
Ah ouais.
Vous envisagiez une carrière à un niveau national?
De haut niveau?
Ouais. Non,
pas du tout.
Une carrière à un petit niveau?
Non plus. Non plus. Pas de carrière. Voilà. Non, pas du tout.
Quand même, à un niveau régional, vous avez été, présent à un niveau régional, ça oui.
Oui, oui, au niveau régional, j'étais très présent.
Est-ce que l'on apprend, en étant sportif et en subissant des entraînements, en ayant aussi les consciences des limites de son corps, est-ce que ça aide au métier d'acteur?
Ah oui, on apprend la concentration, on apprend l'obstination, on apprend le goût de l'effort. On apprend, à bouger son cul, son corps. Enfin, on apprend à bouger.
Partie.
On apprend.
Oui, vous avez pu faire de la danse.
Oui, mais j'ai hésité après, mais je pense que le goût pour le mouvement est venu là, à ces moments-là.
Parce que le sport, c'est une répétition d'un même mouvement aussi, avec une certaine technicité, d'efficacité.
D'ailleurs, je peux faire une parenthèse, c'est que j'ai présenté le film aux Étoiles du Sport, qui est un organisme qui fait des sessions, qui regroupe des sportifs de haut niveau, de tous âges, et notamment des jeunes espoirs, mais déjà de très très haut niveau, et qui ont été bouleversés par le film, parce que justement, ils se retrouvaient aussi à cet endroit-là de ce personnage, qui, dans cette motivation qui a duré quand même 33 ans pour construire ce rêve.
Le facteur cheval, le rôle lui-même est physique. Hein. Vous marchez énormément dans le film. Ça reste du cinéma, mais enfin, physiquement quand même.
Lui faisait 32 km quotidiens pour sa tournée sur les sentiers de la Drôme.
Son petit marathon.
Et ensuite, il y retournait pour aller chercher ses cailloux. Et
sa brouette.
Nuit et jour avec sa brouette, en effet.
En 2004, Nils Tavernier a réalisé un documentaire sur la sexualité des Français, notre manière de bouger. Quelle particularité avait ce documentaire, ce reportage?
Il était narré par quelqu'un? Pierre Tchernia.
Pas loin, non, ça c'était fantasme.
En tout cas, c'était des personnes âgées? La sexualité chez les personnes âgées?
Non, c'était sur les Français en général. Mais qui...
Il y avait une personnalité connue dans le documentaire qui parlait de sa sexualité?
Non.
Enfin, j'ai pas le droit de répondre, évidemment.
Non, t'as pas le droit. Non, c'est pas que toi tu saches.
Mais Jacques, vous pouvez jouer.
C'était illustré par des textes, c'était.
C'était mimé.
Alors, c'est dans.
Il y avait des actes sexuels.
Non, la manière dont les propos étaient, voilà. Donc, c'était.
C'était des reconstitutions en costume.
C'était interprété. C'était interprété par des acteurs. Vous ne vouliez pas que les témoignages, malgré leur véracité, soient face caméra. Dit par les Français eux-mêmes.
Oh là, ça c'est une question longue, hein. J'ai combien de temps pour y répondre?
Et encore, vous n'avez rien vu, et là
j'ai fait un effort.
Je vais essayer d'être rapide. On m'a demandé effectivement, un grand producteur de documentaires m'appelle et me dit « Nils, est-ce que tu veux faire un film sur la sexualité des Français ?» Moi je sortais d'une enquête où j'avais démantelé un réseau de trafiquants d'enfants esclaves entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Donc je me suis dit que c'était un copain qui m'appelait pour se foutre de ma gueule. Et c'était Rotman, qui est quand même un des plus grands producteurs de documentaires, qui a une signature magnifique. Et il s'agissait d'adapter un bouquin, qui était un bouquin de Janine Mossoul-Langlois, si je me rappelle bien, qui était un bouquin du CNRS. Et elle avait perdu les coordonnées des gens. Je pouvais pas faire un documentaire sur des gens qui me parlent de leur sexualité s'ils me parlaient... si c'était des vraies personnes. Si moi, je viens parler de ma sexualité à la télévision, alors je suis dans un égocentrisme, dans une envie une profonde d'être vu. Il y a quelque chose d'exhibitionniste. Voilà. Et à l'époque, on était sur les premiers trucs de télé où les gens filmaient des gens sans en avoir rien à foutre. Quel impact ça a de mettre quelqu'un dans un documentaire? Moi, c'est quelque chose qui m'importe. Donc, ce que j'ai fait pour contrecarrer cette idée de télé populiste, j'entends par là vraiment pas le même mot populaire, je me suis dit, voilà, je vais faire des interviews de personnes que je filme en leur disant que j'allais retranscrire leur interview par le biais d'une mise en scène avec des comédiens. Le problème, c'est que c'était un postulat que j'avais donné au départ sur le film, qui était un film prime time télé quand même.
C'était une manière de les protéger aussi.
De faire une espèce
de psychanalyse filmée non plus de ces interviews.
Et puis c'était de dire non à la télévision ou au documentaire où on s'en fout de qui on filme, quel impact ça va avoir sur sa vie derrière. Voilà. Le problème, c'est que c'était un postulat que j'avais donné au début du film, et moi j'avais un pote, un acteur, qui disait « Ouais, moi j'ai fait du porno, maintenant je m'ennuie, j'ai plus de sexualité, j'ai tout fait mes fantasmes et tout. » Mais la personne en télézappe, donc le matin il va chez son boulanger, et son boulanger le regarde. Et mon pote me dit « Mais mon boulanger m'a dit « Mais alors vous faites du porno ?» Donc c'était très très gênant pour lui. À la fois, c'est un film que j'aime bien, je pense qu'il y a trop de personnages dedans... et puis finalement, de parler de la sexualité, ça, très vite, j'ai tourné en rond très vite quand même, hein, il y a un moment donné, c'est le cas de le dire.
Dans quel endroit, belle image, ouais. Dans quel endroit Jacques Gamblin se sent-il particulièrement bien?
Sur l'eau?
Non.
Dans les airs?
Non plus.
Dans son lit?
Dans un stade?
Non.
C'est une région?
C'est un lieu...
Au théâtre?
Il y en a partout.
Au théâtre, à l'église?
Les Club Med?
Dans les bars?
Non.
Les Club Med?
Il n'y a pas partout des Club Med.
Il y en a partout en France.
Partout en France.
Ouais,
partout.
Des UCPA.
Dans une église.
Il a même besoin, s'il y a un tournage, d'être à côté de ce genre d'endroit.
Des toilettes.
Un hôtel.
Non.
Des lieux en France qu'il y a partout.
La campagne, la nature.
Il se sent bien.
Alors, c'est vrai, c'est dans
l'église.
Une
salle de shoot.
Non.
C'est une manière de...
Les pharmacies.
Les cinémas. Non.
Ils se sentent non. bien.
Oh. Chez le bib.
Chercher quelque chose de plus...
Près de l'eau,
plus traditionnel. Non.
De l'utalasso.
Chez le boulanger.
La terre, la terre.
Les bouchers.
Chez le boucher.
Les arbres.
Les bistrots.
Ah, mais vous êtes PMU, pas bon.
Un spa.
Mais non.
Un café, un bistrot.
Je vous dis, il y en a normalement dans toutes les villes.
La poste.
Alors, c'est dans l'idée.
Ah, bravo.
La boulangerie.
Non.
La mairie. Les impôts.
Ah, l'EDF.
La boucherie. Au bordel.
C'est curieux quand même, Jacques.
Jacques Gamblin, vous aimez...
Il y a eu plein de choses vraies qui ont été...
Non. La vérité, c'est que vous aimez... Les gares.
Ah,
et jamais vous n'avez dit la gare. Vous avez dit la poste, vous avez dit la mairie, l'église, mais jamais la gare. Qu'est-ce que vous aimez dans les gares? Le sentiment de pouvoir.
Oui, bien sûr. Mais y rester et ne pas prendre un train, c'est pour observer. J'aime voir les gens qui se retrouvent. J'aime voir les amoureux qui se retrouvent.
Pardon, mais il y en a aussi qui se séparent.
Hein, oui, mais je préfère voir ceux qui se retrouvent.
J'entends.
Parce que il y a des choses étrange, toujours. Mais oui, c'est vrai aussi dans les séparations. Mais c'est, on peut lire plein de choses entre bon, comment on fait pour se quitter ou comment on fait pour se retrouver. Enfin, c'est il y a de la pudeur, il y a enfin il se passe plein de choses dans ces étreintes et je les trouve. Toujours renouvelée, toujours étonnante.
Dans une séparation, on n'est pas maître du temps. C'est l'alerte du départ, c'est la sonnerie, la cloche ou le sifflet du chef de gare qui décide de la fin des
enfants. Absolument, que dans les retrouvailles, il y a cette attente qui explose à ce moment-là. Enfin, moi, je trouve que c'est un lieu magnifique pour regarder.
En 12 ans, Nils Tavernier, on vous l'a dit, fait beaucoup de documentaires, mais particulièrement 3 documentaires sur un moment précis.
La naissance.
Ouais, c'est ça. C'est simple, c'est basique, c'est efficace.
Ouais, c'est comme ça. Je trouvais qu'on perdait du temps. Donc.
Oui,
directement à l'essentiel. Voilà.
T'avais pas l'air complètement sûr non plus.
En tout cas, non, c'est le début de la vie. Hein, c'est la vie.
La naissance, quoi.
L'arrivée.
Arrêtez de tourner autour du pot.
Il a marqué un point. Ah
ouais. Quels étaient les titres de ces docs?
Je fais un film qui s'appelait L'Odyssée de la vie, où j'ai reconstruit un bébé dans le ventre d'une
c'est
maman.
C'est sublime, ouais. En image de synthèse, c'est formidable.
Ouais, ça c'est un film qui a été qui est vu à l'école, qui reste le film de référence sur la maternité.
Mais mondial, non, j'ai l'impression.
Mondial, je sais pas, en tout cas en France, oui, c'est un film qui a été...
Ah ouais, formidable.
Qui est le film de référence, objectivement à l'heure actuelle. Après, j'ai fait un film sur les jumeaux, où je me suis intéressé à la génétique. Parce que le jumeau...
Alors, dans l'or, c'était les secrets de l'Odyssée.
L'Odyssée de la vie.
L'Odyssée de la vie. Et
les mystères des jumeaux.
Ah pardon, et si on faisait un bébé, je croyais.
Et si on faisait un bébé, je suis intéressé à l'évolution de l'homme et de la femme depuis les années 70 jusqu'à la fécondation in vitro. Voilà, il y a un truc à exploser dans la société, c'est la définition de l'enfant. Voilà, pour moi un enfant c'était un papa, un homme, une maman et il faisait un bébé. Voilà, avec la fécondation in vitro ramenée par Friedman avec qui moi j'ai travaillé pendant 10 ans, tout d'un coup il y a une définition de l'enfant qui change. Et ça c'est historiquement, dans l'histoire de l'humanité, c'est un changement radical. C'est-à-dire qu'un enfant n'est plus le résultat d'un homme et une femme dans un lit. Ça peut être aussi autre chose. Et ce champ des possibles a un impact absolument considérable sur la relation homme et femme.
Que fait très souvent Jacques Gamblin avant de monter sur scène?
Il mange.
Il écoute de la musique, il fait la sieste.
Bravo.
Il fait la sieste.
Il veut quoi, tu dis?
Il va à la gare.
Non, mais non.
Il prie.
Il chante,
non.
Il prie.
Il se sépare.
Mais elle a
il
répondu.
Dort.
Oui.
Moi, j'avais dit dort déjà. Ah. Merci Jacques.
Ah, j'ai entendu Marina.
Oui, mais c'est pas grave, je l'ai dit au début.
C'est vrai?
Oui. Elle l'a dit tout doucement.
Tout doucement.
Pour pas me réveiller.
C'est ça.
La pudeur.
Vous arrivez, parce que c'est une... comment dirais-je? Je dis pas un exploit, mais enfin, il faut être particulièrement détendu pour s'endormir. Et juste avant de monter sur scène, dormir, c'est une preuve de
zénitude.
Je sais pas, on se relâche.
Oui, j'y arrive presque à chaque fois. Oui, c'est une façon de...
Vous êtes presque en train de nous faire une démonstration, là.
Une façon de d'éliter le stress, le trac que je déteste.
D'atteindre la sérénité.
Donc je me réveille ou je me fais réveiller une demi-heure avant de jouer. Et ce qui n'est pas l'idéal, puisque l'idéal serait de se réveiller sur le plateau. Et comme,
pardon,
un, bébé, comme un bébé, justement, ouais. Et qui sort de l'œuf.
Et vous n'êtes pas un peu dans le coltard
pas du tout.
10 minutes après
pas
vous
du tout.
Être
réveillé. Je peux
être
opérationnel dans la seconde.
C'est vrai
oui. Le matin, c'est pareil.
Alors c'est quoi? C'est une genre de petite fuite avant la scène?
Ah oui,
des petites fuites.
Non mais parce que c'est une
fuite en
une page blanche quoi. Voilà, une page blanche. Je fabrique une feuille blanche pour démarrer une histoire. Quand on se réveille, on est tout neuf.
Ouais.
J'ai besoin d'être tout neuf, de pas savoir ce qui va m'arriver, d'avoir oublié. Tout ce qui va arriver.
Alors parlons de cet excellent film, l'incroyable histoire du facteur cheval, en salle le 16 janvier prochain. Jacques Gamblin, connaissiez-vous le facteur cheval et son histoire avant que Nils Tavernier vous parle de son projet?
Je connaissais un peu, comme beaucoup de monde un peu, mais sans mettre vraiment une réalité sur tout ça. Je ne sais pas très bien si c'était vrai, faux, s'il s'appelait cheval, c'était un cheval qui était postier, facteur, si c'était...
Enfin, bon, voilà. C'était un surnom, c'est comme le douanier Rousseau, on se demande si
c'était
ce qu'il
peu,
était...
Voilà, un peu flou. Voilà. Et puis comme j'ai eu quand même du temps pour me préparer, parce que le film c'est pas tourné tout de suite, j'ai été bien sûr, me renseigner, visiter, dormir, non pas dans le palais, mais juste à côté, le visiter de jour, de nuit.
Et... qui existe, qui est dans la Drôme, qui est, comme voilà, vous l'avez rappelé,
ouais, c'est sublime.
Qui, comme vous l'avez rappelé, visité et mondialement connu et reconnu, y compris de son vivant. Et c'est là, par contre, ce que j'ai appris dans votre film, parce qu'on apprend énormément de choses dans ce film. On apprend d'abord la vie particulière de ce monsieur et presque, j'ai envie de dire, son comportement, ses réactions par rapport à tous les malheurs qu'il peut essuyer. Comment le qualifier d'ailleurs, ce facteur cheval? C'est un homme malheureux, c'est un naïf, c'est un...
C'est Malraux qui disait que c'était un premier témoignage de l'art naïf, en parlant du palais.
Bah, c'est lui c'est effectivement Malraux qui l'a décidé en 69 de déclarer le monument comme première œuvre d'art naïf, en effet.
C'est un être mystérieux quand même. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un homme, tout d'un coup, décide, pendant 30 ans, avec des cailloux, de construire une sorte de terrain de jeu, de cabane pour enfants? Et pendant 30 ans. C'est forcément quelqu'un qui a un romantisme, un cerveau totalement obsessionnel.
Ou une folie.
Alors après, définition sur le mot folie, ça devient compliqué. Je ne vais pas m'aventurer là-dedans.
En tout cas, hors norme.
Il est extraordinaire.
Extra, plus loin, ordinaire. Hein,
il est extraordinaire. Il le dit, c'est un personnage qui est ordinaire au départ, c'est un facteur, et qui va avoir accès à une pulsion vitale extraordinaire.
Alors c'est un facteur ordinaire, sauf qu'il est, il n'est pas jovial, il n'entretient pas, comme on peut l'imaginer, il tape pas le carton avec tout le village, il tape pas la tchatche, il est pas...
Il n'a pas le temps.
Oui, mais...
8 heures de marche par jour, plus 8 heures derrière de construction, c'est...
Alors, il semble un peu dépourvu d'émotion, le début du film, on peut le dire, il est veuf, il perd son épouse, il a un enfant... première épouse, il a un petit garçon et on le sent complètement incapable d'exprimer une quelconque forme de sentiment à son égard.
À tel point qu'on lui retire d'ailleurs la garde de son enfant parce qu'on le sent pas responsable ou capable de s'en occuper seul. Nils, vous n'êtes pas d'accord?
C'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a, à l'époque, les papas, ils s'occupaient pas des enfants.
C'est vrai.
Moi, je suis des premiers pères. Les poussettes qui ont été poussées par les enfants, c'est des êtres comme moi de 50 ans. Facteur cheval, il bosse la journée. Sa femme est morte, il ne peut pas s'occuper de son enfant. Ce n'est pas la tâche des hommes de s'occuper des enfants.
À l'époque.
C'est dit dans le film, à l'époque. Après, moi, je pense que c'est un personnage, et ça, Jacques le fait de manière formidable.
On est à la fin du 19e siècle, dans le film.
Ce n'est pas un personnage qui va verbaliser ses sentiments de manière évidente. Et c'est l'histoire d'un homme qui va réussir, grâce à son œuvre, à pouvoir dire « je t'aime ». Et qui va réussir de son vivant, comme vous le disiez tout à l'heure très bien, c'est un success story. Ce n'est pas quelqu'un qui va terminer, ce n'est pas l'histoire d'un... Ned qui va terminer dans une misère noire et tout. Il va profiter du fait qu'il a gagné de manière sportive, de manière...
Une reconnaissance.
Une reconnaissance.
Ouais.
Et c'est ça qui était chouette. C'est avec Billy Elliot. Quoi.
Avec le retour aussi de son fils, justement, dans la vie. Il y a des moments extrêmement émouvants, extrêmement forts. Je pense au personnage de Florence Thomassin qui se voit obligée de déposer son courrier à la poste parce que elle ne veut pas, elle ne fréquente pas, elle a peur presque du facteur cheval, justement. Il a un côté fermé sur lui-même, replié sur lui-même. C'est pas l'image que l'on a du facteur du 19e qui passe, qui fait sa tournée avec des bonjours à la cantonade et aux uns et aux autres. Et
c'est l'américain, ça.
Oui, non, mais c'est un peu l'image qu'on pouvait avoir à l'époque, en tout cas, de celui qui était le lien. Lui, il n'est pas dans la communication, aussi paradoxale que ça puisse paraître, communication épistolaire, mais verbale.
Non, il est réservé, on peut dire, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Il a une forme d'incapacité à dire, oui, à exprimer, c'est clair.
Y compris, on le sent emprunté en tant que papa, ou quand il apprend qu'il va être papa,
avec sa nouvelle femme. Il ne sait pas comment faire avec les enfants.
Voilà, c'est ça.
Il le dit à son supérieur hiérarchique, qui est joué par Bernard Lecoq, et qui est un personnage comme ça, bienveillant avec lui, qu'il regarde sans le juger, alors que tout le monde le regarde un peu de traviole. Et c'est beau, ce personnage, qu'il regarde un peu comme un autre père. Faut savoir que Joseph Ferdinand Cheval, il a perdu sa mère, il avait 11 ans, et son père, il en avait 19.
Non mais la mort est trop présente dans la vie du facteur cheval.
Alors, c'est un héros de cinéma. C'est quelqu'un qui gagne. C'est quelqu'un qui va construire un palais contre vent et marée, contre la vie de tout le monde, ou le regard de tout le monde.
Contre les épreuves, en effet.
Contre les épreuves.
Sans permis de construire, enfin, c'est...
Oui. L'époque, oui. Ça, c'est sûr.
Oh, et il a une résistance mentale et une résistance physique. C'est une machine de guerre. C'est là où c'était un film de cinéma. Et évidemment, il vit jusqu'à 88 ans. L'espérance de vie à l'époque était plus basse. Donc évidemment, il perd des gens qui l'entourent parce qu'il a une résistance physique et mentale extraordinaire. Alors vous disiez génie tout à l'heure, c'est un personnage qui est objectivement totalement hors du commun.
Mais quand je dis que la mort est très présente, même si à l'époque il était normal que la mort soit... La
tuberculose est très présente.
Oui, mais perdre ses femmes, perdre son enfant, ses enfants, pardon, il y a quand même beaucoup d'informations qui auraient pu d'abord le blesser, le toucher et le faire abandonner, même peut-être des projets. Et paradoxalement, la mort a été un deuxième moteur, c'est-à-dire que de son palais, il voulait enterrer sa fille dans le palais. Là, la loi ne lui permettait pas, donc il a, comme Albert l'a rappelé,
un tombeau extraordinaire,
un mausolée,
qui est lui aussi classé monument historique.
Construit le tombeau.
Il a mis 8 ans après la fin de la construction du palais idéal, qu'il a mis 8 ans aussi à travailler, à construire.
Est-ce que tout est vrai dans le film ou pas? Est-ce que ça a une valeur historique ce film? Toutes les informations qui sont dedans.
J'ai triché sur aucun chiffre, sur rien du tout.
Et la dimension mystique aussi du facteur cheval, à savoir que ce sont les arbres, le vent, parce que c'est ce qui rend aussi ce personnage très attachant, cette dimension poétique, ce taiseux extraordinaire de la montagne, en fait.
Je n'ai pas inventé ça. On le voit sur le palais. Par exemple, sur le palais, il y a quand même plein d'inscriptions qui sont des inscriptions que j'ai mis dans les dialogues, ou qu'on voit écrites. Quand il dit les fées de l'Orient vont fraterniser avec celles de l'Occident, c'est ultra moderne. Quand il dit ce que tu vois passant est l'œuvre d'un paysan, il y avait déjà au fond de lui une envie de reconnaissance, de lutte des classes, quelque chose comme ça, finalement très moderne. Enfin, on parle de ça alors aujourd'hui tous les jours. Après, il y a des choses sur lesquelles j'ai spéculé. On sait que Facteur Cheval a commencé son palais 6 mois après la naissance de sa fille. Je vois pas comment la naissance d'une petite fille a pas d'impact sur un individu. C'est impossible. Et en plus, il a construit son palais 6 mois après. Donc dans le film, je lui fais dire que je vais construire
jouer
un palais en ton honneur. Donc ça, c'est vrai. Alors le truc qui est un peu triché, c'est que quand vous regardez les photos de sa femme, elle ressemble pas à Laetitia Casta. Ah, ça, c'est vrai. C'est un peu...
Et le fait qu'il se documente aussi
en regardant
les cartes postales, soit il s'en servait comme... Enfin, les cartes qu'il devait distribuer aussi. Et il se documentait, il avait l'air hyper curieux, très très ouvert. Vous parliez des civilisations et tout ce qu'il représente en façade de ce palais idéal montre quand même un individu qui avait conscience, en fait, d'une réalisation au sein d'une grande planète.
Oui, tout ça est vrai. On sait qu'il avait des livres d'histoire, qu'il regardait, on sait qu'il distribuait ce magazine illustré qui s'appelait Le Magasin Pittoresque, et dans lequel il piochait des idées probablement. Ouais. Enfin, une culture comme ça sur place, enfin, sans bouger de la Drôme ou pratiquement. Il y a une période de sa vie où on s'est posé la question s'il n'avait pas un peu voyagé, mais rien n'est sûr et probablement pas. Mais en effet, une culture du livre, une culture de l'observation, du regard, de la nature.
Un savoir-faire technique aussi.
Ah bah non, mais ça, il l'a appris.
Il
est totalement autodidacte.
Ouais. Il avait été boulanger.
Il avait été boulanger. L'important, c'était la paume des mains pour pétrir la pâte. Ouais. Et on retrouve ce geste aussi avec le ciment, avec la glaise, avec les pierres,
avec la chaux
et la manière dont il a construit.
Sauf que là, ça dure plus longtemps que le pain.
Exactement. Non, c'est un film merveilleux. Là, on a beaucoup parlé du fond, du sujet. La forme, elle est totalement dingue. Jacques Gamblin, je vous l'ai déjà dit avant cette émission, vous êtes un acteur formidable. Mais dans ce film, vous êtes bouleversant. L'histoire aide, mais l'incarnation que vous en faites, la manière dont vous le jouez, la manière dont vous vous transformez aussi à travers ces années, est formidable,
et
est émouvante en tout cas, et très touchante. Et bravo.
Ne faites plus rien après.
Ah ben c'est ce qu'il avait prévu.
C'est mon projet.
Ah, il faut crier quand on dit ce genre de phrase.
Mais c'est vrai, on parlait du corps tout à l'heure, de cette dimension physique, ce côté ascétique, sec. du facteur cheval qui est qui fait 10 heures de boulot en tant que facteur, 10 heures de boulot derrière pour continuer à ériger son palais idéal. C'est aussi dans la tenue du bonhomme qui vieillit avec le temps, qui est blessé et qui retourne quand même chaque jour. Donc ça aussi, il y a eu quoi, une préparation particulière? Vous êtes très sec, vous êtes naturellement comme ça, mais est-ce qu'il y a eu aussi un travail en ce sens?
J'aimais beaucoup regarder les quelques cartes postales. D'ailleurs, aussi parenthèse à ce sujet, c'est que c'est aussi un homme qui a été à l'origine des droits, des droits à l'image, puisqu'il y a eu un photographe qui est venu prendre des photos.
Pour commercialiser des cartes postales.
Commercialiser des cartes postales sur lesquelles il s'est rendu compte à un moment qu'il n'avait aucun droit de suite. Et il a fait un procès qu'il a gagné, il a demandé que toutes ces cartes postales qui étaient en vente disparaissent et il a engagé un autre photographe et ça a fait jurisprudence et depuis, le droit à l'image est arrivé. Moi, je m'inspirais beaucoup de ça, ces cartes postales qu'on peut voir un peu, enfin, ces quelques images où il pose comme ça, de façon un peu sèche, un peu
militaire presque.
Oui, un peu militaire avec son costume.
Mais c'était l'époque où tout le monde posait comme ça.
Et puis facteur où le sourire eût été une grimace, enfin, dans l'image, et il est un peu raide comme ça, et c'est un peu fier aussi, et ça a été pour moi tout de suite une image forte que j'avais envie de profiter, quoi.
En tout cas, c'est une réussite, hein. Sincèrement, une réussite à voir absolument. Allez-y en famille, emmenez les enfants parce que
les voisins aussi, prenez vos voisins.
Mais évidemment, prenez votre facteur, prenez tout le monde, prenez votre cheval. Allez-y, emmenez des gens que vous ne connaissez pas. Offrez des places de cinéma pour aller voir.
Le public, on va les emmener.
L'incroyable histoire du facteur cheval. Jean-Jacques Lang.
Yes.
Jean-Jacques Lang.
Monsieur le cousin.
Ce film sera un succès, on est d'accord.
Mais un succès auquel vous aurez contribué fortement, très cher Nagui, en recevant les formidables et bouleversants Jacques Gamblin et Nils Tavernier. D'ailleurs, à propos de vous inviter en ce début de nouvelle année, que je vous souhaite heureuse, radieuse, fabuleuse, fougueuse, musculeuse, des tas de trucs en euse. Je tenais à mon tour à vous féliciter, Naguito mio, comme l'ont fait hier et avant-hier à ce micro, mes amis, le père Albert et le maréchal Ganache. Comme eux, je tiens à vous complimenter pour votre résolution de renoncer à la facilité, à la futilité, à la légèreté, en demandant à JNB, notre rédacteur-chef de Coulommiers, une programmation qui donne toute sa place aux nourritures intellectuelles. Beaux-arts, littérature, philosophie, archéologie, haltérophilie, bref, à la culture qui est toute ma life. Et moi-même, quand je pense à la culture, je ne me limite pas aux implants cultivés sur mon occiput par Jean Patou, mon capilliculteur, paysagiste, chez Zozo Coiffure, Jean Tremble. Oui. Jean Patou qui, hier encore, alors qu'impatient d'arborer la même crinière que mon cousin Jacques, je me plaignais de la lenteur de cette renaissance capillaire, Jean Patou, disais-je, m'a fait taire en me murmurant à l'oreille « Silence, ça pousse ». Mais je vous l'accorde, Nagui mon chéri, je ne suis pas là pour parler coiffure. Revenons donc à nos invités. Si j'ai salué votre détermination d'en finir avec l'apologie complaisante de divertissement aussi racoleur qu'inconsistant, je ne vous cache pas qu'il vous faudra parfaire votre culture qui, pour être générale, n'en compte porte pas moins des lacunes abyssales. Ainsi, ne riez pas, Nagui Nounet, juste avant cette émission, qu'elle ne fût pas votre surprise, votre déception, votre désenchantement de voir entrer dans ce studio Jacques Gamblin accompagné de Nils Tavernier, alors que vous attendiez à voir entrer un canasson. Bien que JNB vous ait alors expliqué « Oh mon maître, il n'y a jamais eu de cheval, facteur. Il s'agit d'un film sur un artiste majeur du XXe siècle, admiré par Picasso et par André Breton. » Malgré ces précisions, vous avez alors fouetté, prôné, talonné, cravaché la croupe de ce pauvre JNB qui est ni cette douleur. Voilà, cher Jacques Gamblin, cher Nils Tavernier, comment désormais en 2019 se prépare la bande originale. Ceci dit, en vous invitant tous les deux, je sais, moi, pardonnez-moi le jeu de mots, que nous avons misé sur les bons chevaux.
Oh, c'est ça. Bonne émission. Merci,
Nagui, la bande originale.
Ce film, Le Facteur Cheval, est accompagné aussi de la sortie d'un livre, Nils Tavernier, chez Flammarion. C'est l'histoire du film, c'est le scénario, comment ce livre...
Non, c'est pas le scénario du tout. Ce qui est compliqué sur un film, sur Facteur Cheval, c'est que, encore une fois, il a 88 ans de vie. Donc sur un film, il faut que je fasse des choix.
C'est bien, oui.
J'avais pas envie, vous dites qu'on apprend plein de choses en Facteur Cheval,
ah bah
c'est
oui,
sûr,
clairement,
mais on n'est pas submergé d'informations. Moi, je viens pas de la littérature, je viens pas de la radio, je viens de l'image. Donc, ce dont j'avais envie sur le film, c'était d'avoir des acteurs qui nous fassent passer des sentiments grâce à leur regard. Et ça, Jacques, pour ça, il est éblouissant. Laetitia Casta aussi, d'ailleurs. Vous parliez de Jacques tout à l'heure sur le système de travail qu'il a avec son corps.
Oui.
Voilà. Mais moi, pour moi, Jacques, c'est sûr que c'est un acteur magnifique, mais c'est un danseur, Jacques. Mmh. C'est quelqu'un qui va placer un mot après le mouvement du corps. Et on parlait avec Nagui tout à l'heure de danseur. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la danse. Et Jacques, il a un rapport avec le corps fondamental. Et l'évolution qu'il a dans le film, qui était une évolution de 50 ans, elle est aussi corporelle. Elle est sur la rapidité de regard, sur le mouvement, sur la manière de parler à un individu.
Sur les paupières aussi, la manière.
Sur les paupières, ouais, qui est complètement se joue, il arrive, ouais, à avoir un rythme. Voilà. Si vous prenez Jacques sur une séquence,
ne soyez pas gêné, Jacques. À un moment, on va dire du mal de vous. Hein, vous inquiétez pas.
Non, mais raconte pas tout.
Non, je raconte pas tout. Mais on
juste
a
le jeu de paupières là.
on est qu'aux paupières.
Non, parce que moi, j'ai une question après sur les yeux. Ouais.
Mais si vous minutez, par exemple, une séquence avec Jacques, eh ben, il va vous proposer un rythme d'une trente. Il va faire une deuxième prise. Ce sera une trente et une.
C'est pas de peau.
Pas de raccord possible, on est mort. C'est une partition musicale.
Ouais.
C'est ça qui est dingue avec cet acteur. Et malgré tout, malgré ce cadre absolument structuré, il arrive à trouver une liberté et un échange avec un réalisateur. Parce que moi, si j'avais qu'une sorte de structure comme ça, orthonormée,
ça serait triste.
Totalement tenue, il n'y a pas de sens.
C'est pour ça qu'il est économiquement viable, Jacques Gamblin, parce qu'il ne dépasse pas le chrono.
C'est
un bon pari.
Vous pouvez contacter son agent au 06-08.
Jacques Gamblin est parti trop vite. Hein,
on va continuer de parler des yeux de Jacques Gamblin et du reste après Marina Rollman.
C'est bien qu'on parle d'art naïf et de surréalisme, un peu des choses comme ça, parce que moi j'ai une nouvelle qui m'a un peu attiré l'esprit pendant cette petite pause des vacances. C'est que saviez-vous que le 5 janvier, un ton s'est vendu 2,7 millions d'euros.
Oui.
C'est dingue. Est-ce que c'est pas encore plus dingue pour la famille de ce ton? Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce qu'ils s'en doutaient? Tu vois, peut-être que depuis toujours, ils disaient, on a toujours su que Didier ferait de grandes choses. À la base, on pensait plutôt qu'il briguerait la mairie ou qu'il épouserait une Raymanta. Mais là, waouh, quoi, on est 3 millions d'euros en plancton. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça paraît tellement arbitraire. Je veux dire, c'est dingue cette idée que, OK, alors c'est les thons rouges du Pacifique et ce sera celui-ci en particulier. Mais dans l'autre sens, je me dis, est-ce que pour les thons rouges, nous aussi, on a des valeurs qui diffèrent drastiquement? Peut-être que pour les thons rouges du Pacifique, les membres les plus importants de la société humaine, c'est les professeur de flûte à la retraite, peut-être, on ne sait pas. Et mademoiselle Agnès Chanfrier de Monceau les Deux Fusains en particulier. Et que s'il fallait la mettre aux enchères, elle serait vendue 2,7 millions d'euros. Et que tous les autres profs de flûte qui seraient pris dans les filets, on les relâcherait, tu vois. Mais je me demande vraiment... Alors, le truc, c'est que l'évaluation, elle est un peu faussée parce que la première vente de l'année sur ce marché au Japon, elle est toujours très haute, pour des questions d'hospice et puis aussi pour faire un peu de publicité. Mais quand même, regarder deux animaux morts l'un d'un côté de l'autre et se dire, alors celui-là, il partira en boîte à 1 euro au supermarché et celui-là, il partira à 9700 euros le kilo. C'est le même prix que 250 grammes d'or. Ce qui veut dire que si tu préserves la chaîne du froid, tu pourrais te ramener dans une agence immobilière à New York avec ce ton et dire, bonjour, voilà, je vais vous prendre 200 mètres carrés dans l'West Village et en échange, je vous donne ce ton. Voilà. Et ce qui est un peu problématique, c'est qu'ils sont en voie de disparition. Et donc, peut-être qu'un jour, ce sera devenu un marqueur de statut social, tellement ils seront rares. Tu vois, plus personne prendra une table en boîte de nuit ou s'achètera une Lamborghini, tu auras un ton. Tu vois, dans les clips de rap, on jettera des tons sur les danseuses.
Ouais, c'est déjà arrivé.
Peut-être qu'un jour, pour une demande en mariage, tu t'agenouilleras et avec une brouette, on t'amènera un ton et tu diras, veux-tu m'épouser? Elle sera là, mais t'es fou, il est énorme, oui, oui. Tu seras là au milieu d'un restaurant.
Ah ouais.
En même temps, c'est risqué parce que dans l'autre sens, si t'as une panne de frigo, boum, tu perds l'équivalent de 350 649 heures de SMIC ou 20 769 chroniques.
Oui.
Pour un temps, c'est quand même. C'est-à-dire que si je m'y mettais, faudrait que je fasse 5 chroniques par semaine, 50 semaines par an, pendant 83 ans pour me payer ce poisson. Et ça, je pense que ça les fait bien rigoler, les trois pauvres thons rouges qui restent.
Les pauvres qui restent.
Bravo.
La bande originale, Nagui,
sur France Inter.
Et puis un nouveau rendez-vous, Marina, ce sera la Nouvelle Ève. On t'y retrouve tous les mercredis et tous les jeudis. Classe. Et c'est à 20h et c'est un lieu formidable avec une jeune femme formidable.
Merci. Marina Rollman, à voir sur scène. Nous parlons de la bande, oui. Nous parlons de la bande originale, des musiques que vous écoutiez, Jacques Gamblin et Nils Tavernier. En 76-77, Jacques, vous écoutiez. She's crazy like. Vous entendez cette musique, ça vous renvoie quelles images?
Ça doit être drôle, ça en tout cas.
Les images que je viens de voir dans le public, des gens qui commencent à... Ça y est, parce que là, tout le monde est debout en train de danser dans le studio.
Ah, votre vue baisse alors.
Comme les tons rouges.
Non, mais ça vous évoque quoi? Ça vous évoque quoi? Pourquoi...
Ça met,
oui.
Oh non, mais je ne peux pas ne pas
ça
être.
Ça devait être quelque chose. Hein.
Oui, voilà. Ouais. C'était quelque chose. Bah, des booms, oui, des booms. On appelait ça des booms.
On appelait ça des booms.
Bah, oui. Oui, on emballe dans les booms.
On emballe dans les booms.
Pas, pas sur Daddy Cool quand même. C'est ça. Je rappelle que juste pour information musicale que.
Ah si, non, mais moi j'emballais sur des rock. J'emballais sur des. J'emballais plus sur des rock and roll, ça s'en est pas vraiment un, mais enfin que sur des Slove.
Je voulais juste dire que Bonnem n'était pas un vrai groupe. C'est-à-dire que c'était des personnes qui chantaient en playback à la télévision chez Guy Lux et autres, mais c'est des chanteurs de studio. Et tout ça avait été monté par des producteurs.
Alors,
c'était du
cassé.
Il n'y a jamais eu aucun concert. Aucun concert de Bonnem.
C'est de la musique en plastique.
C'était du faux. C'était du faux, mais vous avez aimé, en tout cas.
Et à cette époque-là, on est en 76, Jacques Gamblin. Vous devenez régisseur de théâtre. Un peu sur pas malentendu, mais une opportunité comme ça. Vous avez le bac en poche, vous devenez très rapidement après le bac pro, professionnel de...
3 mois après, ouais. Par une rencontre en effet, lors d'un stage de théâtre animé par un homme qui s'appelle Hubert Lenoir et qui m'a fait connaître ce monde et que je profite de remercier encore une fois à la radio, car sans lui je ne serais certainement pas là devant vous.
À Saint-Brieuc
une compagnie, en effet, le Théâtre du Totem qui s'est installé à Saint-Brieuc à cette époque-là. Et oui, il m'a dit, j'ai fait ce stage d'été au mois de juillet. Et puis il m'a dit en septembre, la place est libre, mon régisseur s'en va, si tu veux, je te forme. J'y connaissais absolument rien.
C'est quoi régisseur pour les gens qui nous écoutent?
Pour une compagnie comme ça qui jouait des spectacles, des montages poétiques avec deux acteurs. Nous étions donc trois et le troisième, c'était moi, et c'est la technique, le son, la lumière, on arrivait voilà,
dans une salle,
j'arrivais n'y connaissant rien, j'étais obligé de diriger une dizaine de gus dans des théâtres, comme ça, en faisant mine que je connaissais tout, c'est l'apprentissage par le bluff.
Ça vous a aidé à l'époque le jeu de paupières, pour les convaincre?
Le jeu de paupières à l'époque, non, il y a très peu de jeux de paupières.
Et vous qui aimez observer dans les gares, c'est aussi une façon d'observer les acteurs sur scène?
Oui, pardon, j'ai pas entendu la question. Parce que je pensais au jeu de paupières, parce que je me souviens d'une fois aussi où à Dinan, les acteurs jouaient devant le rideau de fer et anciennement, les régies étaient sur le plateau et non pas en fond de salle. Et donc, je faisais la régie du spectacle sans jamais voir le spectacle. Ouais. Donc, de temps en temps, je descendais, je regardais tout ça, ce qui se passait, où j'écoutais. Enfin, c'était juste un enfer. Je ne savais absolument pas me servir des jeux d'orgue avec des multiples préparations, mais enfin, je déléguais au mieux.
Les jeux d'orgue étant tous les boutons qui permettent de se servir de la lumière, voilà, de monter, de baisser la densité de la lumière.
Des bandes son avec les petites sur des bandes séparatives avec des bandes quoi, enfin des bandes. Voilà,
à l'époque où il y avait du montage avec un ciseau de coiffeur démagnétisé.
Exactement.
Pour pouvoir couper les bandes. Ouais,
et vous avez fait ça pendant 3 ans, vous avez arrêté et finalement.
J'ai fait ça pendant un an et demi et après avec l'envie de jouer qui me grattait en regardant les autres. Voilà. Mais c'est vrai, j'apprenais beaucoup de choses à regarder les autres jouer, bien sûr.
À ce moment-là, dans ces fins des années 70, Nils Tavernier, vous faites votre première apparition au cinéma devant la caméra de votre père.
Alors, c'était quel film ça, 70?
C'était des enfants gâtés.
Ah, j'étais tout petit, ouais.
Bah oui.
Je sais même plus ce que je faisais. Je pense que je faisais
un des gamins. C'est pas un souvenir très fort.
Pour très marquant. Alors qu'est-ce qui a été marquant alors quand vous étiez assistant caméraman?
Ce qui a été marquant en tout cas.
À 15 ans, assistant caméraman, ça doit marquer, ça j'imagine.
Ouais, je pense que j'ai eu un truc qui m'a plus marqué avant. J'avais 12 ans et j'étais allé sur Coup de torchon, qui est un film magnifique de mon père. Et je suis tombé amoureux de l'Afrique et de la caméra. Et du coup, à 12 ans, j'ai dit, j'arrête l'école, je veux faire l'image. J'étais pas très fasciné par les acteurs, même si quand même, Noiret, ça balançait grave. Mais donc du coup, je me suis dit, voilà, je veux faire de l'image.
À 12 ans.
Je suis tombé amoureux de l'Afrique. À 12 ans, ouais. Et donc, du coup, l'école, ça a été une catastrophe. Je vais pas raconter ça parce que ça donnera des... Voilà, c'est pas un bon chemin. Et c'est vrai que j'étais assistant caméraman pendant 6 ans, ouais. Ça, c'était bien, ça.
L'importance de la transmission de votre père?
Je sais pas. Il y a un truc, c'est que moi, j'avais un grand-père qui était défenseur des droits de l'homme, très, très intégriste, très, très puriste par rapport à ça. Je pense que ma mère l'est aussi, profondément. Et si on regarde la filmographie de mon père, on est sur les défenses, sur une défense, sur un cinéma en tout cas, où le droit de l'homme a une place prédominante. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai envie de garder, c'est sûr, ouais.
Début des années 90, Jacques Gamblin, vous écoutiez... Toujours sur le dance floor, Jack. Bouge ton corps. Madonna. Vous sortez beaucoup, vous dansez beaucoup en boîte.
Arrêtez de me demander qu'est-ce que je pense de cette musique.
Et vous les avez choisies.
Ce que je fais avec cette musique. Non, mais la dernière fois, très honnêtement, je ne peux pas faire autrement que d'être très très honnête.
Bah, s'il vous plaît. Oui.
Alors, la dernière fois que je suis passé dans cette émission, j'ai mis 15 jours à choisir des musiques. Ça m'a pris le chou. Je ne savais pas comment faire. Je n'ai aucune mémoire, aucune référence. J'adore la musique, mais j'écoute un morceau, je ne chasame pas tout ce que je ne retiens rien. Et j'étais cherché, pioché chez ma mère des vinyles et tout. J'ai apporté une liste qui était la dernière fois assez. Ouais, mais là, j'ai pas eu les 15 jours. Je les ai pas eu. Et je me suis dit, non, c'est un enfer, au secours, comment je vais faire? Donc, je me suis fait un peu aider. Et donc, ça donne ça, et c'est très bien. Je suis ravi. Ouais, non, mais il faut que je le dise, sinon vous allez m'étrangler à chaque musique.
Quelles images,
de toute façon.
Mais alors, qui est cette personne qui vous a aidé? Est-ce que c'est une attachée de presse qui vous a aidé?
Ah, mais ça, j'ai mes secrets. Non, mais dites donc.
En tout cas, ce sont des musiques
où ça bouge. Pour moi, les musiques, c'est des musiques où ça bouge.
Vous tenez très bien le nom, mais dites donc de Bourvil, hein, quand même. Le nom, mais dites donc. Vous le tenez très bien. Vous l'avez fait.
Et en ce début des années 90, Jacques Gamblin, peu importe sur quoi vous dansiez, en tout cas, vous écrivez votre premier texte. C'est Quincaillerie. Et la méthode d'écriture, elle est assez originale, parce que finalement, il y a un rapport à l'oralité dans un premier temps.
C'est un seul en scène.
Oui, alors voilà, j'écris Quincaillerie, je cache un micro, j'interroge mon père sur son métier de quincailler, et puis je parle d'une enfance, en fait d'un personnage qui ne comprend pas très bien comment toutes ces pièces détachées, et Dieu sait s'il y en a dans une quincaillerie vraiment à l'ancienne, c'est 5 générations derrière, ça démarre par charron, c'est-à-dire les réparations, enfin les roues de charrette, ouais. Et puis etc. Donc c'est 4 étages de réserve à bloc dans les années 70, etc. Et donc comment ce personnage, je ne comprends pas comment toutes ces pièces détachées arrivent à faire un tout. Donc c'est un personnage naïf et qui interroge comme ça aussi bien tous ces objets dans les réserves que sa famille, parce qu'il ne comprend pas comment tout ça fonctionne.
Voilà. Je demandais tout à l'heure à Nils Tavernier quel était l'héritage, la transmission de son père. Est-ce que du vôtre, vous avez appris un sens de l'organisation, parce qu'on imagine que sur plusieurs niveaux de pièces détachées, il faut une rigueur pour que chaque tiroir, chaque pièce, chaque étiquette soit à sa place. Il faut une organisation bien structurée.
Ouais, j'ai appris ça, la rigueur. J'ai appris une forme... Mon, mon père, dont je parle pas mal, oui, dans ce premier texte, c'était un personnage. Enfin, je pouvais le regarder comme un personnage, parce que lui aussi, un peu comme le facteur cheval, était, il y avait une forme d'obsessionnel, comme ça, chez lui, de choses très, très, très carrées. Chaque chose doit être à sa place. Enfin, mm-hmm. il m'a appris ça. Oui, c'est un honnête homme, mon père, et j'aime bien cette notion d'honnête homme. Voilà,
c'est joli que vous y retrouviez.
Et j'espère que j'ai pris ça chez lui, oui. Ouais. J'espère.
Nils Tavernier, en 93, vous réalisez un documentaire pour Envoyé Spécial. Vous vous souvenez ou pas? Sur la drogue.
Ouais, ça s'appelait Drug Dealer.
Drug Dealer, ouais. Comme dites-leur si c'était au pluriel, oui.
Et bah moi, c'est un film que j'aime bien. Je le referais pas pareil.
Là, c'était des témoignages de
Stokes qui étaient face caméra. Je trouvais qu'il n'y avait pas de film pour faire la prévention sur la cam qui soit fait par des gens qui avaient un peu connu la cam. Moi, j'avais un peu connu la cam. J'ai eu la chance d'arrêter très jeune. Moi, à 20 ans, j'ai arrêté de me défoncer totalement. Je suis même plus de pétard. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas d'outils.
Je confirme.
Alors que Jacques...
Dit-il, avec des regrets dans la voix.
Vous en étiez sorti, en tout cas, vous.
Il est temps de rappeler que la drogue, c'est de la merde à ce stade, dans cette émission. Ouais. Mais vous n'avez pas voulu faire appel à des acteurs pour porter les témoignages face caméra.
C'est des vrais témoignages de gens qui parlent de comment ils ont vécu ou comment ils vivent l'enfer de la drogue. Voilà, donc ça a été un film que j'ai construit pour faire un film de prévention, pour le montrer dans les écoles. Après, j'ai fait 150 conférences sur la drogue. Et après, on a fait L127 avec mon père, donc j'ai continué à avoir un rapport avec les flics, la cam et tout ça. Mais le truc, c'est que je l'ai proposé à Envoyé Spécial, ce film, quand j'avais monté un 25 minutes. Et ils me l'ont pris tout de suite. Et le film a fait un carton. Donc derrière...
Il y a eu des demandes, j'imagine.
Pardon ?
Il y a des demandes qui arrivent derrière quand on fait un succès.
Il y a eu énormément de demandes. Ah oui. Et du coup, je me suis dit, ma place, c'est le documentaire. Et je pense que ça a été un des éléments déclencheurs qu'a fait... Ben moi, j'ai fait un à deux documentaires par an depuis 25 ans, donc j'ai fait 35 films.
Mais parce que le documentaire, c'est une manière d'écrire avec l'image et de faire passer des messages, de porter des valeurs, de...
C'est peut-être de porter des valeurs. Et
de
c'est
dénoncer aussi.
De dénoncer, et puis c'est une manière pour moi de me soigner. Et d'aller vers des professeurs que j'ai pas eu à l'école. Quand je travaille 2 ans en neurologie à Necker, je grandis. Voilà, j'ai travaillé sur des sujets qui m'ont permis de pas être submergé par je sais pas quoi l'égoïsme, l'égocentrisme, un truc parisien que beaucoup de gens enfin qui est banal hein.
Bien sûr.
Mais ça m'a permis d'être moins con quoi. Et Jacques avait dit un truc très beau sur un de mes films qui s'appelait De toutes nos forces qu'on avait fait avant, il y avait un gamin handicapé en fauteuil. Jacques, tu m'avais dit, je sais pas si tu te rappelles, il m'avait dit mais moi grâce à ce film, je suis moins con. Voilà. Ah oui. Et ça, je trouvais ça très beau, ça. Et moi, je pense que je suis moins con parce que je suis allé sur l'essentiel. Vous parliez de la vie tout à l'heure, j'ai fait des films beaucoup sur la naissance, mais j'ai bossé 10 ans en soins palliatifs. Donc, j'ai que travaillé sur l'essentiel. Et voilà, je pense que je suis encore très con, mais moins que si j'avais pas fait tous ces documentaires.
Et en voyant le facteur cheval, on sera moins con après l'avoir vu qu'avant d'y aller. On va parler justement avec vous, Raphaël Lambert. Merci de venir à ce micro où vous faites partie de l'équipe de direction du palais du facteur cheval. Vous êtes agent des monuments historiques. Ce palais est qualifié d'idéal. C'est lui qui l'avait qualifié de palais idéal?
Pas du tout. Au départ, le facteur, quand il commence cette œuvre, il ne sait pas quelle dimension au total il va avoir. Et puis un jour, un poète passe au palais idéal. Suite à cette visite, il va rédiger un poème qui s'intitule « Ton palais, ton idéal ». Et le facteur a dit « Ben voilà ». C'est ce nom-là que je veux donner à mon œuvre.
C'est vrai que vous parlez de dimension. J'aurais dû le faire plus tôt. Ce palais est à peu près, il fait 12 mètres de haut, c'est ça?
Il fait 12 mètres de haut sur 26 mètres de longueur.
Et puis il y a aussi une profondeur, parce qu'il y a encore un peu de thé.
Voilà, et 12 mètres de largeur. Donc, c'est ça. C'est assez monumental, on va dire.
Voilà. Il se visite, on l'a précisé tout à l'heure, Jacques Gamblin a rappelé qu'il y avait plus de
170 000 visiteurs
par an. Ouais. Il est unique au monde ?
Il est unique au monde, unique en son genre, unique dans son architecture, dans son histoire, dans tout.
Alors, ce qui le rend unique, c'est que justement, ce soit un fils de paysan, un facteur, un homme normal qui récolte des cailloux dans sa besace, sur sa brouette, et qu'il le fasse sur 33 ans, c'est ça qui le rend particulièrement fou.
C'est cette histoire-là qui le rend fou, unique, par la persévérance de l'homme, par le caractère du facteur. Je pense qu'il n'y a qu'un homme au monde qui avait ce caractère-là, et c'est notre facteur.
Il n'a pas de fondation.
Il n'a pas de fondation à l'origine, parce que le facteur ne pensait absolument pas bâtir un monument aussi grand.
Oui, c'est ça,
non, il est pas architecte. Et puis, au départ, en fait, il commence par faire une fontaine dans son jardin qu'il décore. Il se dit qu'il va faire quelque chose de cette fontaine et ça serait peut-être un tombeau. Mais ça devait s'arrêter là. Ça devait pas durer 33 ans.
Alors, à quel moment a-t-il décidé de la fin ? À quel moment il était, puisqu'il n'y avait pas de plan, il n'avait pas dessiné une ébauche avant de... Enfin, je ne pense pas. Il avait pas
si, avec... si, il a dessiné. Ah, alors, on a retrouvé un dessin d'une des façades, de la façade principale du monument.
D'accord.
C'est bien représenté, hein. Le dessin est très représentatif de la façade. Cela dit, à quel moment il décide qu'il l'a arrêté ? Est-ce qu'il l'a arrêté vraiment avant sa mort ? Ça, j'en suis pas certaine. Je pense que même quand il dit qu'il le termine en 1912 et qu'après il se met à faire son tombeau, il y revenait.
Donc il n'a jamais vraiment fini ?
Non, il l'a jamais vraiment... Enfin, oui et non.
Non, bah prenez une décision.
Ah bah oui, il y a un moment, c'est ça.
On va pas y arriver là.
Alors je vais dire non, il l'a jamais fini.
Ah bah voilà, c'est clair.
Mais
là, il est fini.
Niels Tavernier a dit tout à l'heure que c'était une success story et qu'il avait vécu le succès de son vivant. Comment à l'époque on entendait parler de ce palais ? Il recevait des lettres des Amériques, il recevait des lettres, des visites de milliardaires italiens.
Alors, on a entendu parler de ce monument en France et dans le monde par des articles, par des journalistes. Le premier article qu'on ait retrouvé date de 1905. À partir de là, beaucoup de journalistes et de photographes sont venus voir cette œuvre. Et aussi beaucoup d'artistes. Mais les artistes viennent plutôt après la mort du facteur.
Est-ce qu'il était pas de son vivant ? C'est pas de son vivant. La reconnaissance a eu lieu.
Ah, quand même, il a eu 10 ans où il a engagé une bonne qui faisait déchirer des tickets, payer des tickets, 5 sous.
Oui, non, mais je parlais de la reconnaissance du monde de l'art.
Le monde journalistique. Les journaux en parlent de lui.
En 1904, il a 20 articles de presse.
20 articles.
On sait déjà
à l'école, mais enfin quand même.
T'as raison.
On va pas refaire de film ensemble, tiens, toc.
Si, mais 19, mais pas 20.
Oui, 19 articles.
Donc.
C'est des rares.
Les liaisons dangereuses.
Est-ce qu'il était le fada ? Comme Le Corbusier, c'était le fou du coin, c'était le dingo.
Il était pris pour un fou par ses voisins, parce qu'il faut savoir que donc le facteur.
Parce que dans le film, sa fille dit à l'école dans le village, et puis elle se fait un peu tancer par des minots en disant ouais, tout le monde dit que t'es fou, tout le monde dit que t'es malade.
Alors c'est vrai. Il était pris par un fou parce qu'au départ, donc, il commence son monument par une fontaine. Il commence son monument dans son jardin.
Ouais.
Et à un moment donné, il va arrêter de faire de la volaille et des légumes pour nourrir sa famille. Et on est à une époque où il est très difficile d'avoir de quoi manger quotidiennement. Et surtout, ce facteur qui est fils de paysan montre qu'il a de la culture. Et à cette époque-là, cette culture n'était pas réservée à sa classe sociale. Et ça, ça dérange beaucoup.
Alors, à propos des autres articles, moi, j'ai eu ce sentiment, en voyant le palais idéal du facteur Cheval, en ayant la chance d'aller voir aussi le parc de Gaudi à Barcelone, qu'il y avait un lien assez proche. Étaient-ils proches, Gaudi et facteur Cheval ?
Alors, ils sont contemporains. On ne sait pas s'ils se sont rencontrer.
Parce qu'il y a des, si y a des façades, il y a des façades d'immeubles à Barcelone de Gaudi qui ressemblent vraiment.
Le bestiaire des deux personnages dans le parc Güell et au Palais Idéal sont vraiment similaires.
Proche,
quoi.
Ouais, c'est, ça,
c'est très proche. Et, après, on, ça, il y a aucune trace. On ne sait pas. Malheureusement, on ne sait pas.
Et on sait quels artistes ont reconnu une sorte d'influence du travail, de l'œuvre de Facteur Cheval.
Alors, il y a eu des artistes comme Niki de Saint-Phalle, par exemple. Niki de Saint-Phalle, il faut savoir qu'elle est venue au Palais Idéal en voyage de noces avec Jean Tinguely. Et que suite à ça, elle a décidé de faire son Jordan et Taro en Italie. Donc, c'est quand même pas mal. Jean Tinguely fait le Cyclope, pareil, suite à sa visite au Palais Idéal. Et puis après, il y a des artistes un peu plus proches de nous. Picasso.
Picassiette aussi.
Picasso bon, fait un carnet de 12 croquis qui rend hommage au facteur et au palais, donc c'est pas rien. Et de nos jours, il y a encore des artistes qui créent des œuvres et qui s'inspirent du facteur cheval.
Est-ce que ça vous étonne, vous qui vous en occupez de ce Palais Idéal, que l'on doive dire aujourd'hui, en 2019, il a vraiment existé, c'est une histoire vraie? Il y a encore des gens qui ne savent pas
Alors oui, c'est assez étonnant aujourd'hui, je dirais par les moyens qu'on a pour la connaissance, mais moi-même, il y a des choses que je ne connais pas dans la France et dans le monde, donc on ne peut pas en vouloir aux gens de ne pas connaître.
Vous êtes tolérante, c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas, Nagui.
Comment t'écris tolérante? Vous avez vu le film?
Oui, j'ai vu le film, j'ai assisté au tournage.
Et vous le vivez comme une sorte de reconnaissance
Alors, c'est une sorte de reconnaissance, et je remercie Jacques de l'interprétation qu'il fait du facteur.
Ouais,
alors, bien évidemment, moi, je ne le connais pas, ce facteur, mais j'ai déjà dit à Jacques que c'est la façon dont je l'imagine.
Ouais, maintenant, on le voit comme ça.
Je vois le facteur à travers Jacques.
Et est-ce qu'il a des descendants, rapidement?
Alors, il y a encore des descendants.
J'ai une fille, maintenant.
qui écoute Madonna, Vogue.
Alors oui, le facteur a encore des descendants, mais le monument n'appartient plus à la famille du facteur, il appartient à la commune de Hauterive.
D'accord. Et il a des fondations maintenant?
Il a des fondations maintenant suite à une restauration.
Ouais. Pour qu'il tienne bien contre vent.
Pierre Constant, il faut le nommer, cet homme qui a restauré le palais pendant des années, en parlant au facteur et en lui demandant en permanence, en levant le regard vers le ciel, si ce qu'il était en train de faire lui convenait.
Au niveau de l'équipe du Palais Idéal, Pierre Constant, on l'appelle notre facteur bis. Et quand on a un souci, on l'appelle.
Merci Raphaël Lambert. Tanguy Pastureau, vous allez nous parler sextoys.
Oui, les sextoys, ce sont ces jouets pour adultes qui, contrairement aux petits chevaux, permettent de jouer seuls. Alors, au CES de Las Vegas, le salon de la technologie, a été présenté un sextoy féminin 2.0 qui bouge plus que Laurent Dutch sous ecstasy. Il a eu un prix qui lui a été retiré puisque le CES ne valide pas le plaisir féminin.
Bonjour, Marina Rollman, Tanguy Bastureau, Albert Albou, Daniel Morin.
Bonjour Marina.
Et nos invités, Nils Tavernier et Jacques Gamblin. Avec un film sublime, c'est du grand cinéma, parce que c'est vrai que la taille de l'écran, la beauté de l'image et tout le travail et la minutie du travail et du détail, du souci du détail du facteur cheval, ces deux dimensions-là sont vraiment parfaites, ça fait du bien, c'est un très beau film. J'ai presque envie de le conseiller, tout à l'heure j'ai dit aux familles, il faudrait presque que des profs puissent emmener des classes entières voir le film pour la valeur culturelle. C'est un spectacle, puis on apprend de notre patrimoine aussi.
Il y a un truc...
Vous vouliez ça d'ailleurs, vous vous êtes dit, il y a une success story, il y a une histoire extraordinaire à raconter, celle est incroyable, celle du facteur cheval, mais il y a une volonté de transmettre, d'en parler plus que l'on...
Oui, après la transmission du patrimoine, ça m'intéresse. Ce que je trouve beau dans Facteur Cheval, c'est que c'est quelqu'un qui a un ressenti d'exclusion et qui arrive à s'inclure. Voilà, ça, je trouve ça très beau. C'est un film qui raconte que avec l'effort, on peut y arriver. Alors, je sais bien qu'il y a des exclus qui n'arrivent pas à s'inclure et qui resteront dans une sorte de misère toute leur vie. Mais c'est un film qui donne du courage. Je trouve. Et ça a valeur peut-être thérapeutique, peut-être aidante. Pour les gamins, il y a un côté. Billy Elliot, il va se battre pour danser et pour monter sur scène. Facteur Cheval, il va se battre pour pas danser, mais construire une cabane. Voilà, je trouve que c'est... Moi, j'ai envie de dire aux gens qu'on a le droit d'être romantique. C'est un film d'amour, c'est une histoire d'amour, qu'on a le droit d'aimer les êtres, qu'on a le droit d'aimer l'autre, qu'on a le droit d'être aimé par l'autre, et qu'on a le droit de...
Et qu'il faut, il faut être têtu aussi, parce que c'est, et là c'est têtu au bon sens du terme.
C'est jusque boutisme, ouais. C'est obsessionnel, c'est un film qui nous interroge, comme le dit Jacques. Non, mais
obsessionnel, sur... on peut se dire, il y a un côté malade. Or lui, il était, quand je dis têtu,
c'est inscrit sur le palais d'ailleurs, cette phrase. Ouais. Enfin, à côté du palais en réalité. Pour arriver au but, il faut être têtu.
Mais non, mais elle est jolie cette phrase, parce que ça prend le mot qui est souvent donné comme étant un reproche, comme étant, voilà, on a cette t'es vraiment têtu, tu me casses les pieds, t'es têtu. Or, le fait de ne rien lâcher, c'est aussi une valeur formidable qui est transmise par le film.
Bien sûr, ô combien. Et puis, je repense à ce que disait cette dame qui est en ce moment à la direction là, du Palais Idéal, où des artistes, en effet, ont été influencés, où ça leur a donné envie de créer. Et moi, ce que me raconte ce film, c'est ça aussi. C'est-à-dire que cette histoire-là, elle me revient, quand j'ai visité le palais, ça me revient comme un boomerang. C'est-à-dire que tu fais le tour une fois, deux fois, tu vas dedans, à l'intérieur, et puis tu te dis, mais quelle liberté ce type a pris contre vents et marées pour aboutir à cette chose-là. Et que c'était son rêve à lui. Chacun en a, on en a tous un rêve enfoui des fois, pas toujours très conscient, mais que à un moment donné, il y a une décision et que cette décision-là, elle appartient à chacun. Et moi, ce film, il me raconte ça. La prise de pouvoir sur son propre rêve et sa propre envie et d'y aller.
Contre son propre destin, parce qu'encore une fois...
Contre son propre destin.
Moi, j'ai vécu comme... Tout est contre lui, et pourquoi pas lui,
exactement,
se bat.
Et c'est ça qu'offre le palais quand on le regarde aussi, et l'histoire de cet homme. C'est pourquoi pas nous, pourquoi pas moi.
On va continuer d'en parler, de cette incroyable histoire du facteur cheval au cinéma le 16 janvier. Pour l'instant, voici Tanguy Pastureau. Tanguy, en ce moment à Las Vegas, tient le CES.
Oui, c'est le salon des geeks. Hein. Ces gens qui avant étaient quatre dans leur garage à assembler des cartes mères, puisqu'à l'époque la carte non genrée n'existait pas, et qui en 2019 sont des milliards. Tous ont passé nos vies sur nos portables, admirés sur Instagram, des petites nanas qui avec les filtres ressemblent à Gisèle Bündchen et sans à Richard Bohringer. Nos vies ne sont plus qu'une inepte succession d'alertes sur iPhone. Ah tiens, telle star est morte. Mais on n'a pas le temps de pleurer parce qu'une autre alerte s'affiche disant que le rappeur Booba est tombé sur un livre. Alerte invalidée par une autre alerte disant qu'en fait c'est un livre qui est tombé sur Booba alors qu'il traversait le rayon librairie chez Carrefour afin d'accéder à celui des couteaux à viande électrique dans le cadre de son combat contre Kaharis. On était mieux au Moyen-Âge. Ok, on vivait 27 ans comme Amy Winehouse, mais ces 27 années étaient remplies de vie. On copulait dans la fange en roulant de grosses pelles à des mecs sans dents, et sur 14 gosses qu'on avait, 13 mouraient, parfois 13 et demi tellement il y avait de mortalité. Comme enfant, on avait un pied droit, hein, en 4 soirées dans le petit était dedans, mais dès qu'il s'agissait de réciter ses tables d'addition, il n'y avait plus personne. La technologie nous rend triste pour rien. Regardez au CES de Vegas, le gros truc cette année, ce sont les écrans de télé souples. On va pouvoir rouler sa télé. À part dans le rap où les mecs vont fourrer de la beuh dedans et fumer le JT de Delahousse, ça a quel intérêt? Tiens, Legrand, la boîte d'électricité, a fait un partenariat avec l'assistant connecté d'Amazon. Du coup, il suffit de dire Alexa, c'est son nom, hein, ferme les volets, ou Alexa, monte le chauffage, ça se fait tout seul. Mais enfin, ça existe depuis toujours. Comment vous faites, Nagui, 30 ans que vous dites Dolores ferme les volets et votre gouvernante s'exécute? L'assistant connecté, c'est la fin des chèques emploi-service. Il y a aussi une sonnette intelligente. Quand quelqu'un sonne chez vous, vous voyez en vidéo sur votre portable qui c'est. Toute la journée, vous vous retrouvez à mater des témoins de Jéhovah. Pire, Benoît Hamon, qui essaye de recruter des adhérents à son parti. Ou le livreur Chronopost. Hein, lui, il ne sonne pas, il écrit absent sur un papier qu'il accroche sur la porte. Vous êtes là, il s'en fout. Jamais personne n'a vu de ses yeux un livreur Chronopost. Je pense qu'il n'existe pas, à l'instar des fans de Franck Michael de Sexe Masculin. Bref, tout ça, c'est nul. Au CES, il y a une innovation valable. Une seule, un sextoy féminin de la marque Osé, qui, pour la première fois, je cite le fabricant, reproduit toutes les sensations de la bouche humaine, de la langue et des doigts. Donc, à part pour ceux qui arrivent à faire jouir leur partenaire avec le lobe d'oreille gauche, vous êtes remplaçable. Il faut arrêter de penser que vous servez à quelque chose. C'est faux. Robinson Crusoe sur son île avec avait ce sextoy, je peux vous dire qu'il n'avait pas besoin de twerker contre l'étui peignant de vendredi pour satisfaire ses besoins charnels. Donc au CES, ils sont conquis. Enfin, un gadget utile. On n'a pas besoin de tous ces écrans pour être heureux, il suffit de se tripoter. Et le fabricant, le 10 octobre, reçoit un mail disant que le sextoy a un prix d'innovation.
Sauf que vous m'avez dit que le 31 octobre, un autre mail arrive et qui annule tout ça.
Oui, le salon dit qu'en fait, le sextoy ne rentre pas dans la catégorie robotique et drone dans laquelle il l'avait classé. Alors, drone, non, hein, puisqu'il ne vole pas. Personne ne veut d'un futur où des sextoys circulent dans le ciel, à part les mouettes qui pourraient découvrir de nouvelles sensations. Mais robotique, si, parce que le bidule a plus de mobilité qu'un black bloc pourchassé par les CRS. Personne n'a dit que le terme robot devait s'appliquer uniquement aux aspirateurs qui bossent tout seuls et qui, une fois sur deux, essayent d'aspirer le teckel de mamie Josette. Un sextoy dernière génération, c'est un robot. Donc la PDG de la boîte, Laura Haddock, c'est une américaine, donc ça passe. Mais chez nous, quand on dit son nom, on voit juste le capitaine défoncé qui essaie de faire teaser Tintin pour ensuite le faire dépuceler sur le port de Hambourg. Cette dame réagit, elle dit que c'est du sexisme. Parce que l'an dernier, dans le même salon, il y a eu des robots stripteaseuses. Ah bah ça arrive souvent, hein. Moi mon presse-agrume passe sa vie tout nu. Et aussi des poupées sexuelles, tout pour hommes. Et là, ça passait nickel. Mais la sexualité féminine, c'est pas possible, il faut cacher tout ça. Un robot avec des boobs qui murmure à un mec « Chez toi ou chez moi, bébé, pour une dernière lingette antibactérienne pour clavier, c'est ok, mais un sextoy féminin ?» Non. Alors, fin de l'histoire, le CES, oui. Mais ça, c'est un truc d'époque. Hein. Vous voyez, je suis désolé, mais avec la situation sociale...
On jouit avec ce qu'on veut.
Le CES. Ça en dit beaucoup sur vous, Nagui, ce que vous
n'êtes
plus.
Non, non, c'est toi.
Oh, oui, s'en sort.
Si tu veux, j'ouvre une cagnotte, Nagui.
Fin de l'histoire. Le CES a fini par dire que le produit était obscène, a interdit aux dames de l'entreprise de l'exposer sur le stand. Donc, il y a des tables et dessus, rien. Hein. On a l'impression que c'est un dîner chez Lily Rose Depp. Ce qui fait dire à Laura Haddock, je cite, ils ont peur des vagins. Ce qui est incompréhensible. Hein. Certes, ça surprend la première fois. On se dit, ok, pour la commode Billy chez Ikea, il y avait une notice. Là, non. Enfin, très vite, ça fait plus peur. Hein. Sinon, au musée d'Orsay, il y aurait un tas d'hommes morts par infarctus devant l'origine du monde de Courbet. Si on devait comparer, je trouve les pénis 10 fois plus effrayants. Ces machins tout moches qui d'un coup se dressent, on a vite l'impression d'être un charmeur de cobra à Marrakech et qui on aurait confisqué la flûte. Hein. En plus, faut arrêter, le salon se déroule à Las Vegas, la ville du vice. Là-bas, tout ce qui compte, c'est l'argent, le sexe et les lives de Céline Dion. Hein, mais moi, si j'y allais, je prendrais une douche toutes les 4 minutes tellement je me sentirais sale. Donc, en vérité, je vous le dis, tout ce qui peut nous éloigner du virtuel est bon. Nos vies sont autre chose qu'une succession de données. Vive le réel, les sextoys, la frénésie, le plaisir. Avoir une télé qui se roule ne sert à rien, à moins de s'en servir comme sextoy. Mais après, ça fait bizarre d'entendre William L'Emergie en soi. Bref.
C'est Henri Bastien.
La bande originale. Nagui. Sur France Inter.
L'incroyable histoire du facteur cheval. Nous en parlons aujourd'hui de ce très bon film avec Jacques Gamblin et Nils Tavernier qui sont nos invités. Nils, je voulais, au même titre que nous avons fait des compliments dans la première partie de cette émission à Jacques Gamblin, compliments que nous allons réitérer, mais faire des compliments sur la réalisation aussi. J'ai trouvé que la manière dont vous filmiez d'abord le paysage, les personnages, le jeu, était... pas dans une contemplation gratuite et j'ai envie de dire un peu racoleuse.
Oui, faire de la belle image pour de la belle image.
Exactement, parce qu'il y a de très très belles images, il y a des sublimes couchers de soleil, il y a des sublimes jeux de lumière et de nuages, mais ce travail-là, vous le faites avec des actions. Jacques Gamblin passe dans le plan est en mouvement, le plan est un plan avec un jeu, c'est-à-dire vous n'avez pas juste mis une caméra en disant on va filmer au moment où ça sera joli, non, tout est calculé, la lumière naturelle est extraordinairement mise en valeur et on comprend d'ailleurs à quel point le paysage, la lumière ont une influence sur l'œuvre du facteur cheval. Si ça s'est passé là, c'est pas par hasard non plus.
Moi je voulais, je veux pas.
Merci déjà, merci.
Merci, pardon.
Mais vous êtes sa nounou, c'est incroyable.
On se connaît bien.
Hein. Je vois, oui.
Mais comment, ouais, c'est difficile de réagir là-dessus.
Non, je parlais de l'importance du paysage. Envie, vous l'avez sublimement bien filmé, les paysages.
J'ai pas envie de faire des démonstrations de mise en scène. Mm-hmm. Voilà, j'ai envie d'avoir des acteurs, un chef-op, une direction artistique qui soit. Pour le film.
Oui, mais pardon, les acteurs, il faut les diriger, la lumière...
Je suis responsable artistique d'un film, voilà. Mais je n'ai pas envie que la forme soit au-dessus du propos. J'ai envie de la soutenir. Sur Facteur Cheval, il fallait gagner 3-4 marches. Voilà. La direction artistique du film, c'est Fanta Latour. C'est la colorimétrie de Fanta Latour. Sur tout le film, c'est ça. Donc c'est une direction qu'on a prise. C'est-à-dire que les murs ont été dessinés en fonction de la colorimétrie des yeux de Jacques et Laetitia, les fringues aussi. Tout est construit autour de ça. Après, on est sur des palettes.
Avec Vincent Gallo, c'est bien cité.
Avec Vincent Gallo, le chef op.
C'est un travail de dingue.
Ultra précis en colorimétrie. Voilà. Et ça, c'était quelque chose dont on avait envie, qui donne un truc un peu bizarre, comme dans les tableaux de Fanta Latour, mais qui ne dépasse pas la réalité. Voilà. Mais il s'agissait pas, moi je vais pas faire une démonstration de mise en scène.
C'est quand même très très rare, enfin moi j'ai rarement entendu qu'un travail avait été fait en cherchant à reproduire les effets, l'émotion, la couleur d'une toile, de retrouver ça à partir de la couleur des yeux, de la pupille. Décidément les yeux seraient-ils le sujet central aujourd'hui, Jacques Gamblin. De ses yeux, et que ça décide de la couleur des murs, des vêtements, de la luminosité, enfin c'est fou. Comme travail.
Je peux colorimétriquement, le film il est ultra tenu. Donc on a travaillé et avec la déco et avec les gens qui faisaient les couleurs sur les fringues, les costumes, et avec la lumière. Je les ai briefés de manière hystérique. Voilà. Mais le film est extrêmement tenu par rapport à ça. Mais il fallait pas que ce soit un travail démonstratif. Je peux pas filmer Laetitia avec la couleur de ses yeux avec un fond qui va avoir la même densité lumineuse du bleu de son œil. Ça va pas être pareil. Votre pull, il va pas être bien sur Laetitia. Il faut que je descende le bleu. Tout est construit comme ça. Les couleurs des fringues de Jacques, près du palais, c'est le même beige que la couleur de son palais. Tout le film est construit comme ça.
Thierry Delettre au costume.
Après, on
Vous êtes prêt pour les Césars, en tout cas.
Oh, bah, ça, c'est loin, les Césars. Hein.
Après, il y a 90 plans truqués dans le film. Donc, on a reconstruit la majorité des ciels. Il y a beaucoup de choses redessinées à la palette graphique.
Et alors, la construction du palais, justement, comment la faire? Et à quel moment sommes-nous avec le vrai palais? À quel moment sommes-nous avec une construction?
On est sur le palais tout le temps. Sauf que le palais, évidemment, à l'heure actuelle, il est fini. Moi, mon problème, c'est que je partais d'un palais qui était en construction. Donc, on filme le vrai palais.
Qui était même un potager au début. Hein,
qui était un potager. Donc, le seul truc qu'on a construit, c'est une arche. Et on filme sur le palais. Donc, on a pu filmer et être dans le décor. Ça, c'était formidable. Et pour qu'il fasse plus petit, bah, la palette graphique, on le détourne et on met des caches et on met le ciel qu'on veut.
C'est peut-être un peu de taf. Hein. Vous dites, c'est peut-être loin, les Césars, dans le calendrier, je sais pas, mais en tout cas, dans la probabilité, je
serais... Ah oui, dans le calendrier, oui.
Absolument pas surpris, en tout cas, vu l'interprétation que vous faites, Jacques Gamblin, dans ce film, elle est bouleversante, je vous le redis. On le voit, en tout cas, Daniel Morin, avec l'incroyable histoire du facteur cheval. L'amour ne fait pas que déplacer les montagnes, ça peut aussi amener à la création, à l'art, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Nils Tavernier. C'est aussi un bel hommage à la rêverie, à la volonté, à la force de caractère. La morale, en fait, c'est qu'il faut aller au bout de ses désirs.
Oh merde, 2019, le cauchemar continue. Il dit toujours autant de conneries. En plus, il est végétarien, ce con, il peut même pas bouffer sa langue. Là, il a un film à tes doigts crochus, que je lui plante dans les yeux, que je les arrache et que je lui fourre dans le pif. Mais c'est pas vrai, il commence l'année avec le menu Maxi Best Of, burger, guimauve et smoothie à l'eau tiède. Et que l'amour déplace les montagnes, gna gna gna. Et que l'art et la création, c'est de l'amour, gna gna gna. Il fait le bout de ses désirs, gna gna gna.
Non.
Oh, j'ai la nausée. Pitié, monsieur Guy, faites-moi plaisir. Oui, rien qu'une fois en 5 ans, faites-moi plaisir. Sortez du studio, allez au bout du couloir, prenez l'ascenseur, passez devant les vigiles de la maison de la radio. On fera une cagnotte. Sortez de la maison de la radio, prenez la direction de la Seine, approchez-vous du fleuve et plongez. Oui, plongez dedans, juste après avoir attaché un énorme parpaing à vos pieds. S'il vous plaît, pour l'amour du showbiz et mon équilibre digestif. Non, il bouge pas, tant pis, j'aurais essayé. Mais merde, à la fin, stoppez vos insupportables niaiseries, même si je veux bien le reconnaître. Vous avez la flamboyance d'un étalon de course, vous avez l'éclat d'une pouliche ukrainienne, vous avez la force d'un âne reproducteur, mais vous êtes con comme un poney de manège. Et puis l'amour, vous y connaissez quoi, à part le tarif au bois de boubou? Moi, je peux vous le dire, il ne faut rien faire par amour. L'amour rend malheureux, l'amour rend pauvre, l'amour rend syphilitique, et puis c'est tout. Alors je sais que pour arriver au but, il faut être têtu, mais quand même, merde, une fois encore, monsieur Guy, avec tout le respect que je n'ai pas pour vous, vous avez encore dit
n'importe quoi.
Quoi? Eh oui. La bande originale avec Nagui.
Est-ce qu'il y a, au-delà de tous les compliments que l'on peut faire et que l'on renouvelle sur ce film, Neil Savernier, est-ce que vous avez des regrets? Est-ce qu'il y a, je sais pas, une scène que vous auriez aimé faire, que vous n'avez pas pu faire? Est-ce que vous avez attendu un orage qui n'est jamais arrivé parce que vous vouliez absolument qu'il y ait une scène avec des éclairs dans le ciel, que sais-je? Aucun regret?
Même non, la neige était là.
Ouais, sublime cette image aussi. Ouais.
Non, j'ai pas de regrets. C'est un film qu'on m'a offert. Je l'ai vécu comme un cadeau. Je pense. Alors peut-être ça paraît.
Alexandra
Fechner qui m'a proposé le film. Peut-être que ça paraît orgueilleux, mais moi c'est le plus beau film que j'ai fait. Il n'y a pas de doute par rapport à ça.
Là, je vous confirme. Ouais.
Je suis tranquille.
Enfin, pardon, mais les autres. Enfin, l'Odyssée.
Oh la vache.
L'Odyssée.
Ouais, le chien. Le chien galeux.
Non.
Je veux dire. Prenez le mal. C'est un chien.
C'est un très beau film.
J'ai fait d'autres beaux films, mais je vois bien que celui-là, on est en place. Moi, je suis en place. Voilà. Je trouve que Laetitia Casta, elle est en place dans sa vie de femme dans le film. Elle est magistrale. Jacques, il est magistral. Moi, j'ai l'impression d'avoir accompagné au mieux cette histoire, ses talents. Je suis en confort affectif avec ce film. C'est un film qui me fait du bien, qui me fait câlin avec moi-même. Donc, je vais bien, moi, en ce moment.
Jacques Gamblin, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans l'interprétation du personnage? Il fallait lui trouver une manière de se tenir, de parler, de regarder. Il fallait s'appuyer sur le jeu d'acteur. Vous l'avez construit comment pour le facteur cheval?
Bien sûr, il y a une partie technique, bien sûr, il y a de la moustache, bien sûr, il y a du maquillage, bien sûr, il y a les vieillissements, c'est des heures et des heures de travail, de maquillage. Mais en fait, le plus lourd, enfin, c'est d'interpréter un personnage qui a beaucoup, beaucoup à l'intérieur de lui et qui...
À tes œufs, oui.
Oui, qui n'a pas cette capacité à dire, encore une fois, et j'étais très touché, enfin moi personnellement très touché par un certain nombre de scènes en répétition où j'étais un peu submergé d'émotions souvent, et puis je me suis servi de ça, de ces émotions personnelles, pour au contraire les réserver au moment où le moteur tourne et où l'action démarre.
Parce qu'il en a beaucoup sous le couvercle, quoi. On a l'impression que il a un côté génial et qu'il n'arrive pas à l'exprimer, à communiquer. Alors je veux pas employer des mots trop forts. Et je regarde Albert. Non, je voulais pas employer le mot d'autisme, mais c'est vrai que ça vous choque, Neil, ce que je...
Non, ça me choque pas du tout. Non. Moi, j'ai montré le film à un pote à moi qui est neurologue à Necker, Olivier Dulac. Hein. Et alors après, on dit plus tellement autiste en France, c'est pas chic, il faut dire du trouble du spectre autistique. Hein. Voilà, c'est le nouveau mot qui est bien vu.
Parce qu'on met tout et n'importe quoi.
Parce
aussi.
Qu'on a mis beaucoup de choses dans l'autisme, un peu trop. Voilà. Voilà. En tout cas, il y a des gens, il y a des mamans, il y a des gens qui me disent, mais il a des signes autistiques. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il est câblé différemment. Il a une énergie qui est ultra particulière. Mmh. Il est obsessionnel sans le moindre doute. Il a une difficulté à parler. Et c'est ça dont parlait Jacques. C'est que c'est un personnage qui est prêt à exploser tout le temps, qui est contenu. Et je trouve que Jacques fait un truc formidable dans le film, c'est qu'il y a un mystère malgré tout sur le facteur. Voilà. Et que Jacques, il arrive à jouer des rôles tout en gardant une part de mystère, et on l'aime quand même.
Et ça, avec une hypersensibilité, ouais. Absolument.
Il faut aussi parler, Jacques Gamblin, d'un livre, une conversation avec Thomas Coville. Je parle à un homme qui ne tient pas en place, c'est aux éditions de l'Équateur, une correspondance entre vous et Thomas Coville, pour le resituer, c'est ce grand champion, ce grand navigateur.
Absolument.
Comment est née cette idée-là?
Cette idée, c'est une amitié qui était relativement naissante, elle avait un an et demi, et puis il est parti pour sa quatrième tentative de tour du monde à la voile en solitaire, avec ses grands trimarans, un grand trimaran qu'on appelle un ultime de 31 mètres, et je lui ai demandé s'il acceptait de m'offrir l'adresse mail du bord, que nous sommes très 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 peu nombreux à avoir. Il m'a fait une grande confiance et je lui écrivais tous les jours pour l'accompagner dans cette performance jusqu'à l'abandon et puis le retour. Et qu'est-ce qu'on écrit à un homme, à un ami, ouais, qui abandonne, etc. Voilà, donc ce livre, il est fait de ces correspondances dont j'ai fait un spectacle qui tourne en ce moment et qui sera à nouveau joué d'ailleurs au 104 à Paris du 19 au 31 mars, mais bientôt là encore en tournée. Et puis, mais il est aussi fait de d'autres correspondances qu'on a eu en 2015, en 2016, et je suis très heureux d'avoir convaincu Thomas de d'accepter parce que il nous montre aussi sa, enfin il nous montre sa, sa belle écriture, même s'il se considère pas comme un écrivain, mais c'est très beau.
La correspondance est en livre et le facteur cheval est au cinéma, comme ça on a les deux, l'amitié épistolaire et le facteur cheval. L'incroyable histoire du facteur cheval, ce film sera le 16 janvier au cinéma. Merci en tout cas mille fois tous les deux d'être venus. Des excuses à présenter peut-être, Daniel, avant de
bien sûr, oui, désolé pour les fans de musique et de Jacques Gamblin qui ont découvert l'escroc qui était leur idole. En même temps, je vous signale que très probablement monsieur Gamblin est un polytoxicomane qui, pour illustrer sa BO lors de sa dernière venue, nous avait demandé ça.
Ah ouais, ouais. Et si vous voulez que je vous révèle la personne, alors je peux le faire, qui m'a aidé à construire cette longue liste de musique. Il s'agit donc de cette merveilleuse danseuse qui s'appelle Raphaël Delaunay et qui m'a demandé de réaliser le petit film qui est en ce moment dans l'exposition Michael Jackson. Parfait.
Donc c'est bien un escroc, c'est pas lui qui avait choisi. Hein. Désolé pour l'athlétisme normand, l'athlétisme français, le mondial qui, on l'a découvert ce matin, a beaucoup perdu avec l'arrêt de la carrière sportive de Jacques Gamblin. Désolé les gars, aujourd'hui il est à fond dans le jeu de paupières. Et désolé pour les 20 journalistes qui ont écrit les 20 articles et qui se sont sentis insultés, méprisés par Nils Tavernier. C'est vrai les gars, c'était pas trop adroit.
L'incroyable histoire du facteur cheval au cinéma le 16 janvier. Allez le voir, c'est formidable. Merci Jacques Gamblin, merci Nils Tavernier, bravo encore une fois à tous les deux et à votre équipe. Demain, c'est Emmanuel Berco qui sera notre invité. Tout de suite, voici les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Il est l'heure.
Oui, merci Nagui.